le journal de Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. La campagne présidentielle avec une bataille à l'extrême droite en forme de duel à distance. Éric Zemmour à Lille s'est longuement exprimé sur le pouvoir d'achat à Reims. Meeting en ce moment de Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, doit prendre la parole dans un instant pour insister sur des solutions concrètes aux problèmes des Français. Nous serons à Reims dans un tout petit instant. Gérald Darmanin, devant le Forum de l'Islam de France, appelle les musulmans à écrire une nouvelle page dans l'organisation de leur culte. Dans ce journal également, la France va aider les Émirats Arabes Unis à sécuriser leur espace aérien. Et puis aux Jeux Olympiques de Pékin, la médaille d'argent du biathlon français en relais mixte avant la descente la nuit prochaine, l'épreuve reine des JO. Le temps pour demain, perturbé au nord, ensoleillé au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition.
France Inter.
La politique ce samedi, à 64 jours du premier tour de l'élection présidentielle, et la campagne marquée par le match à l'extrême droite, le duel à distance, que se livrent Marine Le Pen à Reims et Éric Zemmour à Lille. À Reims, meeting en ce moment de la candidate du Rassemblement National devant plusieurs milliers de personnes. Et on retrouve en direct Élodie Forêt. Bonsoir Élodie.
Bonsoir.
Et Marine Le Pen doit prendre la parole dans un instant à la tribune pour un discours qui va suivre le lancement ce matin de sa convention présidentielle.
Oui, Marine Le Pen qui va arriver vraiment d'ici quelques secondes devant une salle comble, 4000 militants enthousiastes, et un discours normalement qui va vraiment cibler le bilan d'Emmanuel Macron. Mon seul adversaire martèle depuis ce matin la candidate Marine Le Pen, qui ne devrait pas en revanche faire d'allusion à Éric Zemmour, refusant de jouer le duel. Avant elle, ce soir, c'est Jordan Bardella qui s'en est chargé, fustigeant les nostalgiques du passé. L'ex-LR Thierry Mariani a lui fait, dans cette période mouvementée, vœu de fidélité.
Quand certains nous expliquent qu'ils se mettent d'accord pour construire le grand parti politique de demain, mais je m'en fous dans 5 ans ou dans 7 ans, on ne sait pas où on sera. Ce que je veux, c'est gagner dans 2 mois. Et la seule qui peut gagner dans 2 mois, c'est Marine Le Pen.
À Reims, où cet après-midi ont aussi été diffusées des vidéos envoyées par des leaders nationalistes européens, dont l'Italien Matteo Salvini et le Hongrois Viktor Orban, affichaient les soutiens donc et les preuves d'amour pour contrer un Éric Zemmour rallié ces dernières semaines par plusieurs cadres du RN.
Élodie Forêt, en direct de Reims avec Christophe Papon. Merci. Un peu plus tôt dans l'après-midi et devant plus de 6000 personnes, Éric Zemmour, en meeting à Lille, a promis d'être le président de la réconciliation des classes dans un long discours sur le pouvoir d'achat.
Tous les candidats répètent en boucle qu'ils sont le candidat du pouvoir d'achat. Chaque euro qu'ils vous font miroiter pour demain se trouve aujourd'hui dans votre porte-monnaie. Ils vous appâtent avec des chèques cadeaux. Mais c'est vous qui passerez à la caisse. Le pouvoir d'achat, c'est ce que l'État veut bien vous laisser quand il vous laisse quelque chose. Dès le premier jour de mon quinquennat, nous commencerons à dresser la liste exhaustive de tous les moyens par lesquels l'État détruit votre pouvoir d'achat. Sauver le pouvoir d'achat, pour moi, c'est une urgence absolue. Car un pouvoir d'achat fragile, c'est une vie fragile.
Propos recueillis par Maxence Lambrec. Éric Zemmour s'en est également pris aux médias, ce qu'il qualifie de gauche. Les Français, a-t-il dit, n'ont pas besoin des médias de gauche qui les détestent. Auparavant, une manifestation contre la venue à Lille d'Éric Zemmour a rassemblé plus d'un millier de personnes. Un rassemblement émaillé de tensions avec les forces de l'ordre qui ont procédé à 3 interpellations. Place à de nouveaux interlocuteurs musulmans. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes, a assisté aujourd'hui à la mise en place du Forum de l'Islam de France, l'instance qui remplacera le Conseil français du culte musulman comme interlocuteur officiel de l'État. Ce forum de l'Islam de France marque une nouvelle tentative d'organiser cette religion, la deuxième en France, avec 6 millions de fidèles et avec une mission, mieux structurer le culte musulman en France pour le détacher des influences et des ingérences étrangères. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Et dans le dialogue entre l'État et l'Islam, Gérald Darmanin a appelé les musulmans à écrire donc une nouvelle page.
Ah oui, Gérald Darmanin qui a salué constituer cette nouvelle assemblée, 80 représentants, dont 15 femmes, des religieux et des personnalités de la société civile. Il espère, dit-il, en voir émerger de nouveaux interlocuteurs. Après les blocages du CFCM, le Conseil français du culte musulman, vous l'avez dit, et de ses fédérations sous influence de leur pays d'origine.
Nous avons à travailler pour retrouver une certaine représentativité. Il y a des questions qui se posaient jusqu'à présent, notamment les élections au CFCM, qui étaient au mètre carré de mosquée une partie du temps, selon la puissance des fédérations tournées, si j'ose dire, de leurs dirigeants. Il appartient désormais à ce que les musulmans nous proposent eux-mêmes la façon dont ils veulent s'organiser. Moi, je n'infantilise personne.
Le ministre pousse ce modèle territorial à l'allemande avec des membres sélectionnés dans chaque département, plus en phase avec la base pour Tarek Obrou, imam et recteur de la mosquée de Bordeaux.
Les membres du Forif ont été choisis de par leur indépendance. Pour l'instant, ça va dans le bon sens, le climat il est bien dans le Forif, etc. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, ni politique, ni financier, etc. Donc c'est plus apaisé. Maintenant, j'espère que le projet évoluera dans le bon sens.
Car pour l'instant, les rapporteurs des quatre groupes thématiques ont formulé des pistes de travail sur la formation des imams, des aumôniers, sur la lutte contre les actes anti-musulmans et l'application de la loi séparatisme, mais aucun accord ne semble émerger sur la question du financement du culte, alors que l'État veut limiter l'arrivée de fonds étrangers dans les mosquées.
Rémi Brancato, merci. Le puissant cyclone Batsirai a touché ce soir Madagascar, l'est de l'île. Il représente une menace très sérieuse avec des vents à plus de 200 km/h au Maroc. Les secouristes sont entrés dans le tunnel qui conduit à la poche où se trouve le petit Ryan, 5 ans. Les sauveteurs espèrent retrouver vivant le petit garçon 5 jours après sa chute. Dans un puits, les secouristes sont accompagnés d'une équipe médicale. L'actualité internationale et la France qui dorénavant va aider les Émirats Arabes Unis à sécuriser leur espace aérien. Les Émirats Arabes Unis, alliés majeurs de la France dans le Golfe, ont subi plusieurs attaques des rebelles yéménites Houthis, des tirs de missiles et des attaques de drones qui ont fait 3 morts au mois de janvier dernier. Éric Bigala.
C'est avec ses forces déjà présentes à demeure aux Émirats que la France contribuera à cette sécurisation de l'espace aérien. Le contingent français sur place, sur la base d'Al Dhafra notamment, ce sont 650 hommes, une quinzaine de chars Leclerc et surtout 7 chasseurs-bombardiers Rafale. Ce seront ces derniers qui assureront le gros du travail de surveillance aérienne et éventuellement de neutralisation de vecteurs, qu'il s'agisse de missiles ou de drones d'attaque. Les Émirats ont en effet subi, courant janvier, une demi-douzaine d'attaques aériennes, revendiquées à chaque fois par les Houthis yéménites. Des tirs à longue portée, près de 800 km, séparent en effet les territoires yéménites d'Abu Dhabi, la capitale émiratie. L'une de ces attaques, par drone et visant un site industriel le 17 janvier, avait fait 3 morts. Un tir de missile le 24 janvier avait lui été intercepté par une batterie américaine de missiles antimissiles. Les Américains ont également un important contingent sur la base d'Al Dhafra et viennent d'annoncer qu'ils s'apprêtaient eux aussi à renforcer la défense antiaérienne des Émirats, dépêchant sur place plusieurs chasseurs-bombardiers ainsi que le croiseur lance-missile USS Cole.
Éric Bigala, le sport riche en rendez-vous ce week-end avec la France en argent, en biathlon, dans le relais mixte aux Jeux Olympiques de Pékin. C'est la première médaille française des JO de Pékin. La nuit prochaine, à 4h du matin, heure française, ce sera le départ de la descente. C'est l'épreuve reine des Jeux Olympiques d'hiver. Mais le vent pourrait perturber le programme. Et le vent, c'est la principale crainte de Johan Claret. C'est le chef de file de l'équipe de France de ski alpin. Il sera au départ de la descente la nuit prochaine.
Le vent, vous allez bousquer comme vous voulez, si vous prenez des rafales, c'est mort. Ça fait un peu les boules pour les Jeux Olympiques, parce que c'était déjà un peu pareil en Corée. Encore en Corée, le jour de la descente, on s'en est bien sorti. Mais si la course est faussée à cause du vent, va falloir prier pour avoir de la chance et espérer qu'il n'y ait pas trop de vent. On verra ce que... Quand tu l'as dans le dos, tu le sens pas, mais quand tu l'as de face, tu le sens vraiment. Ouais, tu le sens vraiment, tu le ressens. Et après, quand ça te freine, tu le sens tout le long. Tu joues à les banderoles, tu le sens dans ton corps que ça freine. Après, tu te dis toujours, c'est peut-être pareil pour les autres, mais c'est très dangereux, ça c'est sûr. S'il y a des très gros sauts, on ne pourra pas les faire s'il y a trop de vent. Hein. Après, faut pas trop se prendre la tête avec ça. Faut essayer de faire avec. Moi, je suis parti dans un état d'esprit où je sais que ça va être compliqué sur plein de choses, sur l'organisation, sur les conditions. Et il va falloir prendre le positif qu'il y a à prendre et puis la chance l'a provoquer, quoi. Voilà.
Et puis l'autre actualité sportive aujourd'hui, c'est le rugby avec le début du tournoi Destination et avant France-Italie. Demain à 16h, l'Irlande a dominé cet après-midi le Pays de Galles 29-7 et en ce moment, l'Écosse est menée par l'Angleterre 10-14. Une nouvelle révolution fabricant russe, une petite révolution, l'un des principaux fabricants de vêtements de fourrure du pays, a annoncé la fermeture de son usine. Il se réoriente vers le synthétique. Les vêtements de fourrure sont de moins en moins populaires dans le monde. Après de nombreux cas de maltraitance animale dans certains élevages, de nombreuses maisons de haute couture ont d'ailleurs annoncé qu'elles abandonnaient la fourrure. La Russie apparaissait comme l'un des derniers bastions de la fourrure fièrement portée. Mais même en Russie, la tradition se perd. Reportage à Moscou, Sylvain Tronchet.
La quarantaine élégante, Anna promène fièrement son manteau de vison dans les rues de Moscou. Cette chanteuse lyrique possède également un lynx et quelques autres fourrures.
C'est un vêtement qui affiche votre statut, ça a toujours été comme ça. Ça vous donne de la confiance en soi et vous vous sentez vraiment femme.
Si l'on croise encore beaucoup de fourrures dans les rues de la capitale russe, il s'en vend de moins en moins. Alina, 29 ans, y est totalement opposée.
Je n'en porte pas et je n'en porterai jamais. Ma mère me disait toujours, allons acheter un manteau de fourrure, c'est bien chaud. Mais j'aime trop les animaux pour leur faire du mal.
L'époque où les Russes économisaient des années pour se payer un vison semble donc révolue. Les ventes chutent actuellement de 25% par an. Andrei Kalayev, le fondateur du premier vendeur de fourrure en Russie, vient donc de fermer son usine de Moscou. Le boycott des grands couturiers lui a donné le coup de grâce.
Ces tendances avaient déjà impacté les producteurs de fourrure. Et dès que les grandes maisons de mode ont cessé d'utiliser de la fourrure, c'était fini.
Et la marque Kalayev va désormais s'apposer sur des fourrures synthétiques. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine Siméone.
Bonsoir.
Alors cette semaine, vous vous êtes intéressée à un site de vente de livres en ligne. Alors c'est très facile d'acheter des livres en ligne, les sites ne manquent pas. Mais l'IRECA, c'est son nom, a moins de 6 mois d'existence et propose d'être le libraire qui librera gratuitement partout dans le monde.
Oui, exactement. Je vois bien qu'en disant cela, vous refaites la liste de vos derniers achats et il n'est pas certain que cette question de la livraison vous ait semblé si onéreuse et si compliquée. Je me trompe ?
Non, c'est vrai.
C'est simplement parce que vous habitez dans l'Hexagone. Si vous étiez expatrié aux États-Unis ou à Londres ou à Athènes, vous auriez vite vu à quel point ça revient cher d'acheter un livre en dollars avec des frais de port pour traverser l'Atlantique, par exemple. Écoutez Marc Bordier, l'un des fondateurs de cette librairie en ligne, l'IRECA.
Sur le site IRECA.com, vous pourrez commander le dernier livre de Michel Houellebecq. Il sera à un prix qui est à peu près équivalent au prix français, mais affiché en dollars. Et vous pourrez l'acheter avec livraison gratuite. Si vous achetez ce même livre sur Amazon.com, il sera aussi en dollars, mais un prix qui sera beaucoup plus élevé. Et si vous l'achetez sur Amazon.fr, le prix sera en euros, ce sera le prix français en euros, mais cette fois avec 8-9 euros de frais de port si vous l'achetez sur Amazon.fr.
Alors acheter le dernier Houellebecq à n'importe quel prix ou un autre titre depuis New York, Lomé ou Singapour, ça concerne en fait 2 millions d'expatriés français dans le monde, mais il y a aussi 250 millions de francophones dans le monde. Et c'est pourquoi Marc Bordier et Emmanuel Henry, qui sont des anciens d'Amazon, ont pensé qu'il y avait un marché à prendre, Christine.
Les livres achetés sur l'IRECA sortent des stocks de la librairie phare de Grenoble, la librairie Artaud. Les 32 libraires d'Artaud restent à disposition de leurs clients habituels, mais désormais ceux-ci sont à la fois à Grenoble et potentiellement partout dans le monde. Pour Claire Crisiolo, directrice de la librairie, c'est donc un projet d'expansion d'un nouveau genre.
C'est un projet tout à fait inédit. Il ne s'agit pas simplement d'une société, d'une nouvelle société e-commerce, d'une nouvelle plateforme, point. C'est un projet beaucoup plus élaboré. Tout le sens du projet, c'est cette synergie entre le e-commerce et la librairie physique et surtout, je dirais, l'humain qui est derrière. Effectivement, ça passe par les coups de cœur des libraires qui vont être, j'allais dire, exportés au-delà de la librairie, à l'international.
L'exportation de livres en français à l'étranger est très mal desservie. L'IRECA se propose d'y répondre et si on rêve un peu, on imagine qu'elle réussira peut-être un jour à diffuser vraiment tous les livres de la francophonie non européenne, c'est-à-dire maghrébine, caribéenne ou africaine.
Ma Vie Connectée, Christine Siméone, à retrouver sur franceinter.fr. Le temps pour demain.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Demain, le soleil va garder la main le long des Pyrénées et autour de la Méditerranée, mais Mistral, Tramontane et vents d'ouest en mer seront forts jusqu'à 90 km/h. De l'Aquitaine au sud du Massif central et sur les Alpes, le ciel deviendra plus sombre au fil de l'après-midi, tandis que sur les deux tiers nord du pays, il faudra oublier le soleil qui s'est imposé aujourd'hui, avec l'entrée en scène par la Manche d'un temps pluvio-venteux, avec des rafales proches de 100 km à l'heure sur les côtes, 80 dans les terres. En matinée, ce temps perturbé va gagner tout le nord de la Seine, puis le centre Val-de-Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté en journée, et par la suite, le Massif central et les Alpes du Nord la nuit suivante, en donnant de la neige à très basse altitude dans les vallées alpines et de fortes rafales sur la Provence. Les températures maximales, toujours au-dessus des moyennes, vont afficher 9 à 12 degrés en général, jusqu'à 16 sur le Var et la Corse, après un début de journée assez frais, entre 0 et moins 3 degrés près de la Garonne et du nord-est au Lyonnais.
Jean-Michel Golinski.